12h à Kinshasa, 13h à Kolwezi, dans la province de Lualaba, vous écoutez Radio Kapi.
Radio Kapi.
Le journal Patience Ngalula Mbombo.
La problématique de l'électricité dans la ville de Kisangani était au centre de la rencontre du chef de l'État et la notabilité de la Tchopo. Pour ce faire, le Frivao est désigné pour financer les travaux de rénovation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo dans le cadre des réparations collectives. 82 détenus sont décédés dans la prison centrale de Kakwangura de Butembo en l'espace de 10 mois. Selon les réseaux pour les droits de l'homme, une ONG des droits de l'homme basée à Butembo, le surpeuplement carcéral serait l'une des causes de cette mortalité. Notre invité est Arsène Aganze, délégué national du mouvement ATD Car Monde, un mouvement qui œuvre dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Il s'entretient avec Jean Kassami à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la misère. Bonjour à tous. Dans la province de la Tchopo, on s'achemine peut-être vers une solution concernant l'électricité dans la ville de Kisangani. Les fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC pourraient intervenir dans le cadre des réparations collectives pour financer les travaux de rénovation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. C'est ce qu'affirme Théo Vel Loti Kalikwela, député national élu de la circonscription électorale de la ville de Kisangani. C'était hier en marge de la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par le chef de l'État. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Le problème de l'électricité dans la ville de Kisangani a trop duré, déclare le député national Théovel Lotika. Il faut absolument une solution efficace compte tenu de la vétusté de la centrale. Pour cela, les élus de la Tchopo ont demandé au chef de l'État de s'impliquer en faisant intervenir le Frivao pour une solution idoine. C'était vendredi dernier, au cours de l'audience qu'il a accordée aux sénateurs et députés nationaux de l'espace Grand Oriental. Théovel Lotika.
Parce que déjà Frivao, dans le cadre de réparation collective, assez d'argent pour cela et qu'il avait déjà montré une bonne foi de financer avec 9 millions de dollars et que c'est insuffisant. Mais pourquoi ne pas demander à Frivao de financer une fois pour toutes cette centrale et nous allons vous parler au chef et le chef est d'accord. Et donc nous espérons que d'ici la semaine prochaine, il y aura des accords qui seront signés et que les fonds seront décaissés.
Des trois groupes initiaux, un seul fonctionne en produisant 5,1 MW, un autre est en panne alors que le troisième est complètement déclassé selon le député Théovel Lukwela qui cite le DG de la SNEL. Toujours selon lui, il faut 45 millions de dollars pour remplacer carrément ces trois groupes. Dans un premier temps, ils pourront fournir 25 mégawatts sur les 45 requis pour couvrir toute la ville en électricité. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les matériels de génie civil légués à la province par la brigade chinoise de la MONUSCO viennent d'être déployés dans le territoire des Kalehe. Cela pour rendre praticable la RN2 sur les tronçons Minova-Goma. Cela en attendant l'exécution du grand projet de la réhabilitation de cette route d'intérêt interprovincial reliant les nord et les sud Kivu. Rachel Kiesembangu.
Il s'agit des anciens engins de la MONUSCO, actuellement pour les phares d'essai, déployés par le gouverneur de province du Sud Kivu selon sa cellule de communication. Le surchargement des embarcations sur le lac Kivu exige de travailler davantage sur d'autres alternatives, dont particulièrement la réhabilitation de la RN2. De leur côté, la population de Kalehe attend voir les débuts des travaux de réhabilitation sur la RN2 Minova-Goma à travers ces engins. Delphin Birimbi, président de la société civile de Kalehe.
Tout en encourageant le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu, qui est en train de vouloir répondre à nos actions de plaidoyer à travers les engins qui seraient déjà en route pour venir ouvrir rapidement les tronçons routiers Kalehe Centre Nyabibu jusqu'à Minova sur la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma, ceci en attendant la réalisation de multiples promesses du gouvernement national à ce qui concerne l'asphaltage de la route nationale numéro 2 et numéro 3.
Signalons que le gouverneur de province Jean-Jacques Pourossi avait fait cette promesse aux populations de Kalehe lors de son dernier séjour à Minova aux obsèques des victimes du naufrage du bateau MV Merdi. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Lutter contre la saturation du trafic routier dans la capitale, la Commission nationale de prévention routière CNPR et l'Office des voiries et drainages OVD ont pris certaines mesures à titre expérimental qui devraient débuter ce lundi, mais dont la simulation a débuté ce dimanche 27 octobre. Il s'agit notamment d'une présence accrue des policiers dans différentes intersections, une mise en sens unique de certaines routes à forte affluence et l'installation d'une circulation alternée dans d'autres. Des mesures prises sous l'autorité du ministère des Transports, Voies des Communications et Désenclavement du ministère des Infrastructures avec les concours du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la police nationale. L'objectif étant de rendre fluide la circulation des véhicules à Kinshasa. On écoute les explications du directeur technique de CNPR, Valère Fumukani, dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
Au niveau de quartier 1, nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser qu'au niveau du saut de mouton des Libertés. Pour la partie ouest, il y a l'avenue Ngouma, de 5h à 10h. À partir des météos, la circulation sera à sens unique. Mais à partir des 15h, de l'entrée Montfleury, là, on a inversé la circulation. Et la deuxième avenue, l'avenue du tourisme, la partie après le rond-point Lyon, ces tronçons-là est rendu à sens unique. Le matin, de 5h à 10h, vers le centre-ville. Sous le boulevard Monduba, nous avons récupéré la quatrième bande, c'est-à-dire la bande après les séparateurs. Cette bande-là, nous allons l'utiliser. Le matin, de 5h à 10h, de Kitambo Magasin jusqu'au niveau de la gare centrale, elle sera également à sens unique. À partir de 10h, la circulation redevient normale. Et nous disons à partir de 15h, nous allons inverser la circulation.
Au Nord Kivu, 82 détenus sont décédés dans la prison centrale de Kakwangura de Butembo en l'espace de 10 mois. Parmi les principales causes de cette mortalité élevée figure la surpopulation carcérale selon les réseaux pour les droits de l'homme, une ONG des droits de l'homme basée à Butembo. André Kitenge nous fait le point.
Depuis le début du mois d'octobre en cours, 11 détenus sont décédés dans la prison centrale de Kakwangura de Butembo, ce qui porte à 82 le nombre de prisonniers décédés dans ce pénitencier depuis le début de cette année. Ces chiffres sont contenus dans un communiqué de presse publié samedi 26 octobre par le Redo, le réseau pour les droits de l'homme. Cette ONG de droits de l'homme basée à Butembo évoque plusieurs causes liées à cette mortalité élevée. D'abord, le surpeuplement avec 1349 détenus dont deux femmes alors qu'elle n'a qu'une capacité de 250 places. Ensuite, la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires des détenus. L'ONG note également l'insuffisance de médicaments et de nourriture dans la prison. Le Redo recommande à l'État de désengorger cette maison pénitentiaire ou encore d'accélérer l'instruction des dossiers des prévenus. Enfin, cette ONG de défense et de promotion des droits de l'homme demande aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux détenus de cette prison. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, c'est le calme ce dimanche avant midi sur les lignes des fronts localisées depuis une semaine à l'intersection des territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru. Toutefois, la situation demeure confuse sur les terrains. Des sources ont annoncé la chute et l'occupation par les rebelles du M23 RDF l'après-midi de samedi des nouvelles localités pendant que d'autres soutiennent que l'ennemi est contenu sur une partie de la localité de Kalembe. Chris Mukand pour les détails.
La société civile de Walikale renseigne que les combats se sont poursuivis toute la journée de samedi autour du pont de Minjenje et du village Moulema en groupement d'Ikobo. On est à une dizaine de kilomètres de Kalembe, qui se trouve toujours aux mains des rebelles du M23 et de Pinga, à une vingtaine de kilomètres. Pendant un moment, l'ennemi a pris le dessus sur les combattants VDP des APCLS et des NDC de Guidon, prenant le contrôle des villages Minjenje et Mpeti et coupant du coup la route entre Kalembe et Pinga. Peu après, les VDP sont revenus à la charge et ont délogé l'ennemi de Minjenje, libérant de ce fait la route entre Kalembe et Pinga Centre, confirment les sources de la société civile jointe dans la région. Avant de quitter Minjenje, les rebelles auraient mis le feu et incendié quelques maisons, également le Baraza Lawazé. Ce dimanche matin, les rebelles du M23 sont dans les villages d'un petit Ihula, outre Kalembe, qu'ils tiennent depuis la reprise des hostilités il y a une semaine. Pendant ce temps, les groupes d'autodéfense APCLS et NDC sont à environ 1 km de Kalembe et occupent toutes les collines des alentours, indiquent nos sources. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Les enseignants des écoles primaires publiques de la province du Tanganyika réunis au sein du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques suspendent la grève déclenchée depuis la rentrée scolaire. Ils l'ont fait savoir à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue hier à Kalemi. Les activités scolaires reprennent de ce lundi dans toutes les écoles primaires publiques du Tanganyika. Ils donnent 3 mois au gouvernement pour qu'il réponde favorablement à leurs revendications. On écoute Augustin Moulala, rapporteur provincial du CINEP Tanganyika, dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Nous suspendons la grève et la reprise des cours à partir de lundi le 28 octobre 2024. Cette reprise sera conditionnée par le point ci-après. Les enseignants disent que le gouvernement honore et prenne en compte les revendications des enseignants repris dans le cahier de charges. 500 dollars ou 1 500. L'uniformisation de la prime de gratuité, nous avons la retraite digne et honorable et nous avons la suppression des zones salariales. De tous ces points, les enseignants disent, nous attendons d'ici 3 mois, la matérialisation de ces points, surtout l'uniformisation de la prime de gratuité à la hauteur de 250 000 francs congolais.
À Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, les personnes vivant avec handicap moteur ont joué samedi 26 octobre 2024 à un match aller de volley-ball qui s'est soldé par un score nul, soit 56 buts partout. Objectif, sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination dans la lutte contre la poliomyélite. Cette rencontre sportive organisée par la Division provinciale de la santé d'EPES Kwilu avec l'appui de l'UNICEF s'est déroulée sur les terrains de la tribune des camps Onatra, cela en présence de plusieurs cadres de la DPS, de la commissaire provinciale de la police et du public, dont plusieurs autres handicapés de toutes catégories qui sont venus pour soutenir leurs semblables. Irène Bomaluzolo pour plus de détails.
C'est l'ambiance qui a régné dans l'après-midi de samedi au terrain des camps Onatra à Bandundouville. Il s'agit d'un match de volley-ball joué pour la toute première fois dans l'histoire de cette ville par des personnes vivant avec handicap moteur sur l'initiative de la DPS Kwilu.
Nous avons joué le volley-ball. C'est une chose qui nous a donné aussi la souplesse. Nous sommes des personnes vivant avec handicap physique et non mental.
Pour Madame Florence Ilunga, coordonnatrice provinciale du programme national pour la communication et la promotion de la santé, PNCPS Kwilu, c'est une manière pour cette catégorie de personnes de contribuer à la sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination dans la lutte contre la poliomyélite, une maladie virale qui tue et qui rend infirme toute la vie.
C'est dans le cadre de sensibiliser les parents et tout le public en rapport avec la vaccination des enfants contre la poliomyélite, comme ils sont victimes, pour que le jeune, les enfants qui naissent, ne puissent plus vivre ce qu'ils ont vécu.
Cette rencontre sportive entre les personnes vivant avec handicap qui ont joué sur une bâche a eu lieu grâce à l'appui financier de l'UNICEF et elle s'est sanctionnée par un score nul, soit 56 buts partout. Iran Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
En Ituri, le chef de la chefferie de Wale Sekaro, Sa Majesté Leku Apobo, n'est plus. Il est décédé la nuit de jeudi à vendredi à Kinshasa, où il avait été transféré pour des soins médicaux. Ses cadres politiques et grands notables de la province a servi les pays à plusieurs échelons pendant 26 ans dans l'administration publique et comme élu du peuple. Martial Kizabiamungu nous retrace son parcours.
Né le 12 décembre 1964 en Douye, dans les territoires de Mambasa, Emmanuel Lekouapobo est passé par l'école primaire Tchamungonye et secondaire à l'Institut Mandima pour terminer ses études universitaires en 1997 en histoire et sciences sociales à l'Institut supérieur pédagogique ISP Iziro. La même année, Lekou est nommé administrateur assistant du territoire de Mambasa avant d'être confirmé titulaire 2 ans après. Il a occupé le même poste dans les territoires d'Iromo avant d'être choisi vers 2001 et 2002 comme coordonnateur de la commission de pacification de l'Ituri, CPI, lors de la guerre interethnique. En 2015, il est nommé le chef de division unique pour diriger l'Ituri avant l'élection du district en province. Lors des élections présidentielles et législatives de 2018, Emmanuel Lekou est élu député national dans la circonscription électorale de Mambasa. Depuis 2023, Emmanuel Lekouapobo était député provincial, coopté en qualité de chef de la chefferie de Walesekaro. Que son âme repose en paix. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au moins 124 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide au Soudan dans les villages d'Al-Siréa dans l'état d'El Jézira lors d'un raid survenu vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois marquant une intensification de la violence dans la région. Le FCR a mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Arsène Aganzé. Il est délégué national du mouvement ATD Carmonde. Il s'agit d'un mouvement qui s'est dit d'avoir pour mission mettre fin à l'extrême pauvreté. Ce mouvement est implanté en RDC, spécialement dans la partie Est. On écoute son délégué national à travers les échanges qu'il a réalisés avec Jean Kassami à Bukavu à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la misère. Suivez.
Bonjour monsieur.
Bonjour messieurs les journalistes.
Quand on parle du mouvement ATD Carmonde, d'aucuns se posent la question, c'est quoi le mouvement ATD Carmonde?
Voilà, ATD Carmonde, c'est une organisation d'abord internationale. Et ATD, c'est un sigle. A, c'est agir, T, c'est tous, et D, c'est dignité. Alors, agir tous pour la dignité du Carmonde. Ce sont les personnes là qui vivent vraiment dans l'extrême pauvreté. Quand on parle d'écart par rapport à la numérotation, on disait tiers, quart monde. Vraiment, ce sont des personnes là qui vivent dans l'extrême, extrême pauvreté.
Où se trouvent vos bureaux sur l'étendue de la République démocratique du Congo? Êtes-vous présent partout au pays?
Jusque-là, non, on n'est pas représenté dans toute l'étendue de la République, mais le mouvement est représenté à l'est de la République démocratique du Congo, dans les deux provinces d'O. Le site Kivu et le Nord Kivu. Nous avons des membres du mouvement à Goma, nous avons les membres du mouvement ici à Bukavu, à Uvira et à Kavumu.
Là où vous opérez, vous faites quoi?
En fait, nous avons des membres et comme nous sommes une organisation qui a une mission, et notre mission est de mettre fin à l'extrême pauvreté et en y associant aussi les personnes qui la subissent. Comme l'a initié son fondateur, qui est le père Joseph Rosinski, parce que lui-même aussi l'a vécu la vie d'extrême pauvreté. Il a dit que c'est important d'initier toutes les personnes qui subissent cette vie de pauvreté, en fait que leur gloire soit reconnue à travers le monde. Alors nous, en tant qu'ATD au niveau de la RDC, nous avons en tout cas suivi la philosophie que le père Joseph, le fondateur, a commencé. En mettant ensemble les personnes là, parce que ce sont les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui savent, qui maîtrisent bien la souffrance qu'ils sont en train de vivre au quotidien.
Mettre fin à l'extrême pauvreté, n'est-ce pas ambitieux?
Oui, c'est vraiment ambitieux, mais on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est pourquoi on fait appel à tout le monde, parce que ce n'est pas une affaire seulement à l'organisation ATD Carmonde, et même les organisations d'autres personnes, même les journalistes, tout le monde est appelé à s'y mettre pour éradiquer. Mettre fin à l'extrême pauvreté, c'est vraiment ambitieux. Mais vraiment, nous pensons, en tant que membres du mouvement ATD Carmonde, si nous nous mettons ensemble avec d'autres personnes, et les mêmes les personnes qui la subissent, on peut vraiment éradiquer cette vie d'extrême pauvreté.
Quelles sont les grandes difficultés auxquelles votre mouvement fait face?
Comme dans d'autres organisations, il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés que nous traversons. Parce que les membres des familles solidaires, les personnes là qui subissent la vie d'extrême pauvreté. Et si vous allez constater dans notre société, il y a beaucoup d'injustice. Et ces familles là que nous accompagnons, ils viennent nous dire les difficultés auxquelles ils font face ou des témoignages qu'ils nous montrent ici, des injustices auxquelles ils sont victimes. Et ce sont vraiment des très grandes réalités que nous vivons ici en RDC. Et ça constitue une difficulté parce que le mouvement en soi, lui, en tant qu'organisation, n'a pas assez de moyens. Parce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on peut éradiquer la pauvreté, ça mettrait aussi des moyens. Par exemple, les moyens financiers. Parce qu'il y a des actions que les familles mènent, les activités génératrices de revenus, auxquelles ils devraient vraiment œuvrer pour éradiquer la vie qu'ils mènent comme la vie de pauvreté. Mais pour y arriver, il faut des moyens. Et l'organisation en soi, elle-même, elle ne peut pas y arriver parce qu'on n'a pas assez de moyens. On fait appel à d'autres organisations, on fait appel au gouvernement parce que c'est ça le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit aussi agir au nom de ces personnes-là qui vivent dans l'extrême pauvreté.
Merci beaucoup pour cette sorte de carte postale que vous venez de nous brosser concernant les mouvements ATD Carmande, RDC.
Merci aussi, merci.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'actualité sur Radio Capi. Merci à Billy Landry-Bétou d'avoir assuré sa mise en onde. Merci aussi à Jacques-Yves Molima et Alain Irong-Mouchine qui l'ont préparé. À la présentation, Patience Ngalula-Mbombo. Merci à vous de nous avoir suivis.